Deutsche Welle. Vue d'Allemagne.
Guten Tag, bonjour à tous et bonne rentrée scolaire à ceux et celles qui sont concernés, élèves, étudiants et professeurs. Ce mois de septembre 2017, c'est aussi celui des élections législatives en Allemagne. Et s'il faut avoir 18 ans pour voter, on peut déjà s'engager plus jeune en politique. La preuve dans un instant. En seconde partie, on fera le point sur le dossier nord-coréen. Pyongyang a réalisé le 3 septembre son sixième essai nucléaire, redoublant les inquiétudes de la communauté internationale. C'est Constance von Kötze au micro, vous écoutez Vue d'Allemagne, soyez les bienvenus. Feuer ist mein Haar, deine Hand ist Kerosin. Die Atmosphäre glüht, hey Mann, lass uns gehen. À quelques semaines des élections législatives en Allemagne, le parti populiste d'extrême droite Alternative für Deutschland, Alternative pour l'Allemagne, reprend du poil de la bête. Alors qu'il stagnait aux alentours de 7% dans les sondages, une étude publiée par l'Institut INSA le 5 septembre le place désormais à 10,5% derrière la CDU et le SPD et devant les Verts, la gauche radicale et les libéraux. Créée en 2013, l'AFD s'est d'abord fait connaître pour son euroscepticisme avant de prendre un tournant plus radical. Et à l'image d'autres pays européens, de plus en plus de jeunes semblent être attirés par les sirènes du populisme. Qu'est-ce qui les motive à s'engager pour un tel parti? Karina Koran, Henrike Busch et Émilie Genestou sont allés à leur rencontre lors d'un congrès de l'AFD dans la région du Bade-Württemberg.
À seulement 26 ans, Markus Fronmayr est un militant AfD de la première heure. Actuel porte-parole de la chef de file du parti pour les législatives, Alice Weidel, il est lui-même candidat aux élections pour la région du Bade-Württemberg. Mais il est surtout connu pour diriger la jeunesse de l'AfD, die Junge Alternative, la jeune alternative. L'organisation, considérée comme plus radicale encore que le parti, a vu le jour en 2013. Depuis, elle possède environ 1600 membres, des hommes pour la plupart, répartis dans toute l'Allemagne.
La plupart des jeunes qui nous rejoignent se font vraiment du souci pour leur futur avenir. Ils voient l'Allemagne changer profondément à cause de la crise de l'euro d'une part, mais ils constatent aussi qu'avec la crise migratoire, que dans quelques années, il ne sera peut-être plus possible de vivre comme aujourd'hui.
Un discours représentatif de l'étude menée par la fondation allemande Hans Böckler, publiée en août. Les résultats montrent que le vote AfD est avant tout motivé par un sentiment d'insécurité. Insécurité économique d'une part, mais aussi politique, avec un manque de confiance envers les partis dits traditionnels. Enfin et surtout, insécurité face aux menaces extérieures. Sophia a 19 ans, elle étudie l'allemand et la politique, et s'engage depuis 2 ans au sein de la jeune alternative. Ses motivations.
Une politique migratoire différente, des frontières plus sûres, et je trouvais leur critique de l'islam plutôt pertinente.
Originaire de Pforzheim, une ville de 118 000 habitants, Sophia dit avoir vu son quotidien changer.
Quand on se promène à Pforzheim, on croise constamment de jeunes musulmans d'origine arabe. J'ai déjà entendu de nombreuses jeunes filles dire ne plus se sentir en sécurité.
Pourtant, 2/3 des étrangers résidant à Pforzheim sont des ressortissants de l'Union européenne selon l'Institut de statistiques de la région. Qu'importe, le discours de l'AfD se veut plus que jamais offensif. Lors d'une manifestation contre la politique migratoire d'Angela Merkel en 2015, Markus Fronmayr avait déclaré vouloir faire le ménage.
Ce que j'entends par faire le ménage, c'est que nous avons aujourd'hui cette politique des portes ouvertes, que des millions de gens sont invités à venir ici pour mener une vie meilleure. Des gens qui, jusqu'à présent, n'ont apporté aucune plus-value à notre système économique, qui n'ont rien payé, mais qui réclament maintenant des droits aux prestations.
L'Allemagne d'abord, un argument qui convainc les jeunes. Manuel Pfeiffer est âgé de 15 ans, issu d'une famille très politisée, il s'est engagé dès l'âge de 12 ans dans la jeunesse de l'AfD et au sein du parti. Son père a d'abord été membre de la CDU, le parti d'Angela Merkel, pendant 20 ans, avant de rejoindre l'AfD. Très vite, il emmène son fils avec lui dans les meetings. Manuel a donc déjà un avis bien tranché sur les points du programme qu'il souhaite voir appliquer.
Que nous ayons une Europe des nations et de la liberté, et non une dictature européenne. Qu'on arrête de nous imposer ce que souhaite la majorité de l'Europe, mais qu'on favorise les intérêts allemands.
Et quand on lui soutient que l'AfD est un parti d'extrême droite, Manuel s'en défend.
Nein, auf keinen Fall.
Non, pas du tout. Être de la droite et conservatrice signifie que l'on défend les valeurs du pays. À ce niveau-là, on peut être considéré comme étant de droite, mais pas d'extrême droite.
Si la CDU avec Angela Merkel et le SPD derrière Martin Schulz devancent de loin l'AfD dans les sondages, le parti populiste devrait, malgré tout, faire son entrée au Parlement national. Rendez-vous le 24 septembre.
Vous écoutez Vue d'Allemagne sur les ondes de la Deutsche Welle. Le 3 septembre dernier, la Corée du Nord a annoncé un sixième essai nucléaire, un test pour une bombe H, une bombe à hydrogène. La puissance de cet engin serait, selon des responsables sud-coréens, 5 fois plus forte que lors du précédent test et plus de 3 fois plus forte que la bombe américaine qui a ravagé la région de Hiroshima en 1945. Quelles sont les intentions de Pyongyang et comment résoudre cet épineux dossier sans courir à la catastrophe? Élément de réponse avec Bruno Hellendorf, il est chercheur au GRIP, le groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité basé à Bruxelles.
Son programme nucléaire, on peut dire qu'il a abouti, en ce sens que Pyongyang dispose aujourd'hui effectivement de la capacité de faire détonner une bombe nucléaire d'une grande puissance. Est-ce qu'elle est capable, comme elle le prétend, de mettre en œuvre des bombes H, des bombes à hydrogène? Bon, il est encore permis d'en douter en ce sens qu'on n'a pas les preuves tangibles pour la croire sur parole.
Est-ce que les intentions du régime communiste de Pyongyang sont toujours les mêmes, c'est-à-dire assurer la survie du régime à travers cette menace nucléaire?
Personne ne peut véritablement dire ce que veut Kim Jong-un. Par contre, il est effectivement possible de déduire de son comportement que ce programme nucléaire est le pilier fondamental de sa politique étrangère, mais également politique interne. Depuis son grand-père, s'est consolidée une propagande qui permet au régime de se maintenir selon la rationalité suivante, qui est de dire « nous sommes véritablement assiégés par des puissances menaçantes, donc les États-Unis au premier chef et leurs valets sud-coréens, et pour pouvoir faire face à cette menace existentielle, il est impératif de conserver les Kim au pouvoir, et le pilier donc de cette propagande, c'est le programme nucléaire et balistique.
Comment on peut expliquer que le pays qui est sous le poids de telles sanctions puisse quand même arriver à développer son programme nucléaire?
D'une part, pendant des années, vu que Kim Il-sung, déjà en son temps, donc là on parle véritablement de la période des années 50-60, ils ont pu acquérir à l'époque, car les sanctions n'ont véritablement été mises en œuvre qu'à partir de 2006. Mais donc pendant toutes ces années, ces décennies, la Corée du Nord a pu progresser lentement mais sûrement en échangeant avec des pays comme l'Iran, le Yémen, la Libye, l'Égypte. Et donc ça c'est une partie de la réponse. La deuxième, c'est que le pays n'a pas été aussi ouvert sur le commerce mondial que l'a été par exemple l'Iran. Et donc les sanctions n'ont pas réussi à mettre par terre le régime. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes dans la difficulté de savoir si plus de sanctions finalement vont véritablement amener au résultat attendu, c'est-à-dire une dénucléarisation de la péninsule.
Pour le moment, effectivement, on voit bien que les sanctions ne produisent pas l'effet escompté.
Les sanctions sont parties à la fois au problème et à la solution, en ce sens qu'elles permettent d'avoir quelque chose en main dans une hypothétique négociation. Toute autre sortie de cette crise qui n'est pas diplomatique, n'est pas envisageable, du moins si on veut éviter des centaines de milliers, voire des millions de morts. Même sans armes nucléaires, la Corée du Nord a les capacités militaires d'attaquer la Corée du Sud, le Japon, voire la Chine, et de faire des dégâts colossaux. Donc, c'est pour ça que les sanctions ont cette utilité, c'est-à-dire qu'elles doivent un jour, elles ont vocation un jour à être levées.
Il y a plusieurs voix, notamment celle de la chancelière allemande Angela Merkel, qui ont cité l'exemple iranien comme une possible inspiration ou un modèle qui pourrait être répété pour la Corée du Nord. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être effectivement une voie de sortie ?
le dossier iranien a permis de valider certaines options fondamentales en termes de diplomatie, de pression, de sanctions, etc., qui pourraient permettre d'entamer des nouvelles négociations. La difficulté, elle est double. D'une part, si on accepte de négocier avec la Corée du Nord, il faut véritablement déterminer sur quelle base et avec quels objectifs. Jusqu'à présent, le prérequis, en tout cas de la part des Américains, c'était une dénucléarisation totale, irréversible et vérifiable de la péninsule coréenne. Les Européens proposent une négociation qui vise à cela. Et donc, à partir du moment où on arrive à cet objectif, donc d'une dénucléarisation totale, irréversible, vérifiable, comme objectif donc d'une négociation, plutôt que comme prérequis, alors il y a une chance, peut-être, de démarrer les choses. Mais là encore, je pense que les conditions fondamentales qui doivent être réunies, c'est un, la confiance, et deux, la participation active des acteurs régionaux. Et en cela, on ne peut pas mettre trop l'emphase sur le rôle européen qui n'est jamais qu'un acteur périphérique.
Est-ce que cette menace nucléaire actuelle a pour vous beaucoup de choses à voir avec celle qu'on pouvait voir entre l'URSS et les États-Unis pendant les années de la guerre froide ?
On construit une bombe nucléaire pour sanctuariser son territoire. Le principal intérêt d'une bombe nucléaire, c'est de ne pas l'utiliser. L'utilisation d'une bombe nucléaire, depuis la guerre froide, on le sait, c'est un suicide. Il faut comparer quand même les milliers d'ogives dont disposent les États-Unis et les quelques-unes dont dispose potentiellement donc la Corée du Nord. À partir de là, on peut parler plutôt que d'un équilibre de la terreur, qui était ce qu'on a connu pendant la guerre froide, ce que j'appellerais plutôt un déséquilibre de la terreur, où néanmoins le nucléaire continue à jouer ce rôle d'égalisateur de puissance, en tout cas du point de vue nord-coréen, et surtout de menace majeure du point de vue américain et du point de vue de la communauté internationale.
C'était Bruno Hellendorf, chercheur au GRIP, groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité. Merci à lui et merci à vous de nous avoir suivis. Vous retrouverez ce magazine sur le dw.com/français, rubrique médiathèque ou podcast. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss.